Donc, oui, la statue de la police qui a été détruite par Robespierre. Robespierre accusait beaucoup le culte de la raison et de cette déesse raison et tout, de véhiculer en fait des cultes de l'athéisme. Et donc, cette statue, ça a été représentée, je crois, c'était une forme féminine qui représentait l'idéologie athée, mais qui était très récente, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, l'athéisme, on se pose la question de Dieu, surtout au XVIIIe siècle. La descente de Dieu, surtout au XVIIIe siècle. Un peu au XVIIe quand même, il y a des libertins, vous avez vu ça. Oui, bien sûr, il y a eu des libertins. Et par exemple, on a parlé la semaine dernière de Jean-Marc de Clouneau, qui avait été exécuté pour athéisme, qui n'était pas du tout athée, d'ailleurs. Enfin, donc, l'athéisme est récent, finalement. Hein. L'histoire de l'athéisme est très récente. Et donc, vous savez que le 17e, le 18e, use et abuse, d'ailleurs, de. Comment ça s'appelle on a vécu des personnifications de. Des allégories. Le 19e siècle emploie beaucoup l'allégorie. Et donc, cette statue d'athée, c'est une allégorie qui représente l'idéologie de l'athéisme. Robespierre, bien sûr, détruira en grande pompe cette statue. D'ailleurs, ça ne sera pas partout. À Paris, c'est la destruction de la statue d'athéisme. Par exemple, dans certaines villes de province, on détruira la statue du fanatisme, dans lequel on inclut l'athéisme. L'athéisme est une forme de fanatisme. Dans certaines villes. Vous vous rappelez plus peut-être pas avant, hein. Enfin, dans certaines villes, il y a eu également un autodafé, mais plus large, détruisant une allégorie de tous les fanatismes, entre guillemets. Donc, j'ai répondu à peu près à la question. Ah, si, sur le plan artistique, il y a des statues de l'athéisme. Quelqu'un qui a vu une statue de l'athéisme ou en gravure, à ma connaissance, je cherche dans le bouquin par exemple de Vorbel, images et récits de la Révolution, mais je ne vois pas. Tu en vois, toi ? Il n'y en a pas. Je ne vois pas. Parce que bon, il y a des statues, il y a des représentations de l'anarchie, hein. Il y a des représentations de ce qu'on veut, mais l'athéisme, je ne vois pas.
C'est-à-dire que c'est la raison sociale de l'athéisme, la raison du monde, la noblesse, de ceux qui se rebellent contre Dieu, qui se rebellent dans l'égalité, que l'athéisme est condamné comme philosophie, comme intransigeance, comme planète. Alors on a donné ensuite la forme matérielle à l'athéisme en construisant le simulacre, un simulacre d'athéisme, que Robespierre brise pour être fait. Il n'y a jamais eu de statut d'athéisme.
Non,
on a une catégorie philosophique, c'est tout à fait différent. D'autre part, c'est Helvétius qui dénonçait, c'est-à-dire le principe matérialiste, niant la distance de l'être faible, mettre la morale, quelque sorte, dans une instabilité, parce que désormais, il n'y a plus la morale de la sanction entre le bien et le mal. Donc, il faut penser à la politique de Robespierre, c'est la politique jacobin, et qui condamne l'athéisme pour des raisons politiques. Dans le cas de mourir et de faire bien la figure de la politique de Robespierre, donc, ceci est également contre la liste, fondamentalement, il y a des lumières, évidemment.
Et d'ailleurs, dans le culte de l'être suprême, dans les cantiques adressés à l'être suprême, on range même les athées au nombre de ceux qui sont anti-français, hein, qui participent au complot de Pitt. Hein, les agents de Pitt ont répondu que le français venait de renoncer à Dieu.
Par la campagne européenne contre la France, c'est le principe. principal, c'est-à-dire qu'ils restent contre Dieu. Pour rassembler, évidemment, les peuples. En fait, c'est un enjeu. Quand même, on va voir aussi bien.
Ce que je voulais dire, c'est que, d'accord, je peux préciser, mais la séparation de l'Église et de l'État, la séparation de l'espace public et de l'espace consacré, si je pense que c'est clair, elle s'est faite sans que personne ne l'ait véritablement voulu. C'est un constat. C'est ensuite qu'on a théorisé ce partage, cette séparation, comme finalement bénéfique pour l'État qui devient l'État de tout le monde, et que ça prend la religion, et bénéfique même pour les religions, ouais, même les confessions. Et là, parce que l'obligation d'être lié au prince, c'est le droit de l'associer. Ça, c'est très important. Donc, dans l'endroit, dans la République française, l'emprunt du docteur Médor, type directoire, l'église, les églises, les religions sont séparées de l'État. Il y a un espace de l'église qui forme une communauté religieuse qui existe. Certaines d'ailleurs étant en fait, et pendant que c'est possible. Et donc, c'est cette séparation de fait que personne n'avait véritablement plus d'argent. Ensuite, les républicains l'ont revendiqué comme une façon de la bonté des filles. La première a revendiqué cela comme un lien positif, pas seulement une réalité, théoriser la chose. Ça, c'est l'objet. Ça, c'est quoi d'ailleurs à l'étranger, parce qu'on croit que ça veut dire.
D'ailleurs, alors, un exemple local, on peut dire, sur la séparation de l'espace public et de l'espace privé, justement, au moment souvent les différentes confessions avaient l'ancienne église, enfin, la ci-devant église officier, avec ce qu'on appelle le simultanéon. Et il y a eu un cas, justement, à Aulas, pas très loin d'ici, il y a les catholiques, enfin, le district, la municipalité du district avait dit, les catholiques officieraient le matin jusqu'à midi, de 7h du matin à 8h à midi, et les protestants de 2 à 6. Et l'opposition du pape, d'ailleurs, des catholiques, était venue du pasteur, qui d'ailleurs accusait le directeur du district des athées, d'ailleurs, au passage, et ne voulait pas faire participer à ces simultanéums, parce qu'on comprend très bien, parce que les catholiques, il y a une idée de sanctuaire, une idée d'abord de sacrifice, de mère, etc. Il y a l'exposition du, comment ça s'appelle, de l'hostie, oui, de Saint-Sacrement, qui peut bien sûr gêner les protestants qui ont une conception totalement différente de culte. Hein. Et alors, ça s'est tranché, d'ailleurs, ces protestants ont gagné, évidemment, parce qu'ils ont continué de céder, de faire le culte dans leur ancien désert, en quelque sorte, en enclos qu'ils avaient avant pour faire leur célébrer le culte dans une propriété privée. Il fallait toujours qu'il y ait une clôture des quatre côtés. Hein. Du moment qu'il y avait la clôture des quatre côtés, que c'était enclos, c'était privé, donc vous aviez droit, à ce moment-là, de célébrer le culte que vous. Le culte des cadavres, je n'ai pas parlé une fois tout à l'heure, c'était surtout des discours, on lisait aussi des décrets, par exemple, on va dire des décrets, des conventions, des décrets officiels, c'était surtout des chants, il y avait des chants, quelques pensées, on peut dire, quelques pensées pour guider la morale. On dit toujours d'ailleurs le culte moral, finalement. Vous avez vu dans les textes aussi, on dit souvent il faut que le culte soit moral. Non, on ne le fait pas. Oui.
Peut-être que j'embrouille un peu les choses. En même temps que le culte de l'être suprême, il y avait donc une liberté de culte dans un espace privé.
Officiellement.
Donc il y avait le culte de l'être suprême, c'était comme une religion d'État. Et puis il y avait possibilité pour ceux qui le voulaient d'aller.
Que ce soit discret. C'est un peu un désert.
Parce que moi, la question que je me posais, c'est si. Parce que tu parlais de laïcité à propos du culte de l'être suprême, mais je me demandais si on pouvait parler de laïcité. Dans la mesure où l'athéisme, on déboulonne l'athéisme, on ne peut pas vraiment pratiquer les autres religions sauf en se cachant, enfin, en restant vraiment très discret. Donc, le culte de l'être suprême, ça ne peut pas.
Je dis, il y a quelques éléments, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de clergé, qu'il soit dans un espace neutre, un espace public, etc. Bon, mais le culte de l'esprit lui-même n'est pas laïque, évidemment. C'est la raison pour laquelle il y a
même explicitement pour, quand vous dites, l'État laïque, l'État le peuple français reconnaît l'être humain.
L'immortalité d'âme. Et d'ailleurs, la déclaration des droits de l'homme commence également avec la consommation de l'être suprême. On est dans des religions libres.
On n'est pas dans la séparation des droits de l'homme, on est dans la confusion exacte de la religion, mais pas des églises.
Oui.
C'est ça la séparation essentielle. C'est qu'une culture de l'être suprême répond à l'aspiration des catholiques, des protestants, des juifs, des rats qui sont morts, à la nation, mais donc répond à cette aspiration profonde. Monde laboral, mais ne le reconnaît pas la capacité en tant qu'Église, en tant que communauté, d'imposer leur loi à la société. C'est donc une transaction. On reconnaît la légitimité de la femme, la légitimité de la croyance, on ne reconnaît pas la liberté des religions, on sait que c'est dans l'espace public. C'est ces actions, c'est tout. Et c'est pourquoi le but de l'être suprême est célébré par les autorités publiques. La convention, le comité s'applique dans les villes, la municipalité, la solitaire, etc.
Oui, c'est très important. Il n'y a pas de clergé.
C'est sur les clergés qui sont. Alors, les clergés, qu'est-ce qu'ils font justement? Et qui sont en même temps appartenant à ces. Ils sont dans l'égalité. Mais la politique de Robespierre a visé à rallier les catholiques, finalement, les catholiques aussi, parce qu'ils sont surtout les catholiques. Et rallier autour du thème, on reconnaît la légitimité de notre foi, l'heure de notre foi morale, mais on ne reconnaît pas l'Église la faculté de vous représenter. C'est représenté par la République. C'est ça le fondement même de.
On est très loin de la laïcité puisqu'on ne reconnaît pas le droit d'être athée. C'est interdit d'être athée.
Ou de se manifester dans les lieux publics, reculant, officiellement.
Les athées, d'ailleurs, ont dit à Robespierre que le culte de l'être capucinale.
Oui, la capucinale.
Et le capucinale. On a mis en grande partie à cause de ça.
Mais n'est-ce pas contradictoire d'être chrétien pour ces gens-là et d'être adoré à la fois l'être suprême? Ça semble contradictoire.
On peut faire le plus commun avec les dénominateurs aussi.
Parce que le catholique, donc l'Église catholique,
oui.
L'Église catholique au XVIIIe siècle emploie constamment l'expression l'être
suprême. On le trouve souvent, oui.
Le terme est aujourd'hui, on le trouve dans l'article célèbre, Jean de Braque, qui en a fait. L'être suprême, c'est la formule œcuménique du temps, la manière dont l'Église de se montrer qu'elle est capable d'enlever toute forme de ce qu'on peut consister dans le verbe. Comment ?
Et c'est pas le même Dieu. C'est toujours dans notre histoire. Donc on vient avec Christian, ça l'ensemble tout à autrefois. C'est pas le même Dieu. Pas la même conception de Dieu. Pourtant, si la conception de création et la conception de Père, on a vu que justement, c'est là où je te rejoins beaucoup, pour ratisser large, disons, on voit que c'est un Dieu Père, Dieu le Père, notre Père qui est aux cieux. Mais nous sommes tous frères. On peut être frère que s'il y a un père.
Chrétien,
on peut être frère. Ah, mais par contre, Jésus. Jésus est complètement oublié. Robespierre le traite du grand bazar. Jésus est oublié, mais même à cette époque-là, souvent par les catholiques, on en parle très peu finalement. C'est Dieu, mais Jésus est le grand perdant au XVIIe, XVIIIe. Oui, donc Jésus. Alors il y a eu le sans-culotte Jésus, mais le sans-culotte Jésus. Jésus était une sorte de préfiguration de Marat. Dans des cultes, c'est un culte sans-culotte. Jésus était la figure, comme on dit dans la Bible, la figure de Marat, la préfiguration de Marat.
C'est la célèbre prière de cette vidéo.
Micro.
C'est la prière de quoi?
Dans la période précède de l'Octavidor, je suis de Robespierre, qui avait en Paris, la rue Moutard, de la place de la Pierre-Escarpe, etc., qui était la partie populaire à l'époque, pas populaire, du palais de Jardin, une femme passée pour folle, mais qui était aimée par une foi catholique très profonde, qui avait un contact avec un ancien oratorien qui s'appelait Don Gerbe, qui était un oratorien américain, et il avait demandé une espèce de confrérie catholique un peu hétérodoxe, il rendait un culte à la Vierge Marie et dont la grande prêtresse était Catherine Théo. Et Catherine Théo, qui était une bonne républicaine, animée par une foi catholique profonde, vivante, rassemblait ses fidèles chez elle et on récitait des prières. Il y en avait une en particulier célèbre, lancée par cette invocation Jésus-Marie, Jésus-Marat. Jésus-Marie, Jésus-Marat, c'est joli, hein, c'est très joli. Alors pour la petite histoire, je vous rapporte que 1922, l'histoire venait d'être prononcée dans Albert-Mathieu, Marie-Jésus-Marat, et Albert-Mathieu a commencé l'exécution, et il est mort en chair. Il a fait une crise cardiaque, alors que dans le ça a déchiré les commentaires innombrables. Donc c'est plus la vie.
Alors, les évêques, par exemple,
Duchère,
qui était constitutionnel.
Constitutionnel,
oui.
Il
n'y
en a pas eu après,
je ne sais
pas, non. Ils ont
tous été. Ah non, il y a eu très peu d'évêques constitutionnels, finalement.
Ah oui, il y en a eu dans le cas.
Oui. Duchère, qui était constitutionnel. Il y en a eu très peu, même pas une dizaine. Ah oui, qui était souvent l'intrus, quoi. C'était vraiment. Et alors,
qu'est-ce qu'il conseillait alors catholique d'aller faire la possession là, il
leur disait. Ah ben, les constitutionnels, oui.
Il leur disait, c'est pour ça.
Oui.
Et
célèbre, c'est
avec les quoi. Avec les quoi. C'est tout le temps. Oui, démissionné devant la convention en grande pompe d'ailleurs c'est une bonne.
Et dans le cas les prêtres ils ont été comment les deux moitiés la proportion à peu près
là je sais pas je n'ai pas de renseignements sur le gars précisément en gros les curés c'était moitié moitié hein, les curés ce qui fait justement c'était l'aspect du franchisme le schisme ça veut dire séparation il y a deux morceaux qui éclatent. Il y avait même des bagarres de temps en temps parce qu'il y avait un prêtre réfractaire qui venait officier de telle heure à telle heure, constitutionnel après, ou même avant, et des fois ça ronflait. Oui.
Je
ne
sais pas si à l'époque il y avait des membres du clergé étrangers, et dans ce cas-là, comment ils ont réagi et comment ils ont été appuyés par la population et par.
Peut-être chez les protestants, il y avait peut-être des pasteurs de l'Angleterre, non ? Oui, oui. De l'Angleterre. Si, le prêtre qui a administré Louis XVI, c'était je crois un Hollandais. C'était un quoi ? Un Irlandais, d'accord,
l'Irlandais.
Un
Irlandais, mais un
Irlandais de Ray Nicholson. Ah, il était, oui, j'ai pas la connaissance. Non. Attention, il faudrait le micro parce que ça n'entend pas.
Le micro, il sert à
rien. Sous la monarchie française, il n'y a pas d'étranger en France. Ceux qui sont étrangers en France ont des lettres de l'humanité de leur vie, en tant qu'individu, tout ce qui existe comme institution, forcément, tout est de permanence, le rôle de la monarchie. Par la monarchie, sauf à titre de personne privée.
Donc voilà.
Et ceux-là, en 1794-1794, sont tous sous contrôle policier, militaire, pour c'est la guerre. Donc tous les étrangers sont touchés.
C'est
surtout dans le monde, avec l'Espagne à côté, parce que ça se fait dans un contexte de guerre, et la menace principale ici, c'est l'Espagnol.
C'est Bertus, oui.
Exactement. Et les regards héros soutiennent les forts de guerre qui sont les mises en guerre.
question s'épuise.
Oui. Est-ce qu'on a des exemples de vraie neutralité laïque en France? Oui, vraie neutralité. Il y a certains aspects que vous avez fait ressortir, mais est-ce qu'il y a des personnages, par exemple, qui sont illustrés dans les siècles? Vraiment des prises de position neutres affichées. Oui.
Parce que Louis Samuel Vincent, lui, était polémiqué beaucoup avec Monet, là, j'ai dit tout à l'heure. Neutre, carrément. Alors attention, c'est qu'à partir du syllabus, les catholiques, eux, ne peuvent plus tellement se montrer neutre, hein, puisqu'ils vont pas se rabibocher avec le monde moderne. De neutre, de vrai neutre, c'est des choses.
Pardon, c'est un concept
qui
a son comprendre.
Qui? Neutralité. Alors, des choses que vous voulez dire, c'est qui.
Séparation de la sphère privée et de la sphère.
Séparation privée.
Oui. Non. Parce que dans quelle sphère vous parlez? C'est pour ça que je ne comprends pas la question. La neutralité qui serait déclarée par qui? Par quel chef?
Voilà. Non, mais un philosophe républicain défend sa position, voilà, comme politique, peut-être qu'il défend sa position de bien partager la sphère publique, de l'affirmer. Évoqué tout à l'heure, il y a certains aspects, parce que quelqu'un l'a théorisé, c'est à cette époque.
Parce qu'il nous a dit 17e siècle.
Oui,
oui, mais bon, c'était quelque chose. Oui, c'est dans le traité théologico-politique de Spinoza. Il dit que la sphère de la théologie, de l'Église, la sphère de la philosophie et la sphère de l'État sont des sphères séparées. Et où il montre que l'État n'a pas à se mêler de religion, que la religion n'a pas à prendre le pouvoir, et que ni l'un ni l'autre n'ont à prendre le philosophe, puisque la philosophie conduit au même principe de moralité, de piété que la religion, en déduisant ces principes de la raison. Et quant à l'État, il n'a pas à craindre les critiques du philosophe, puisque le principe même d'un État fort, c'est un État qui laisse la liberté de penser à tous et qui accepte la critique en son sein. Et après, il y a les Lumières ont repris les thèses de Spinoza. Enfin, dans l'encyclopédie de l'envers de Diderot, à l'article Spinoza, le spinozisme, en fait, ils parlent très peu de Spinoza, mais ils disent que les néo-spinozistes, ce sont les Lumières, et qu'ils reprennent à leur compte les thèses de Spinoza. Bon, après, bon, c'est comment ils les reprennent, par exemple, avec Bessus, effectivement, il en fait un athéisme, alors que Spinoza ne peut pas être considéré comme athée. Enfin, c'est difficile de dire ce qu'il est.
Est-ce qu'on ne confond pas un peu la religion et puis l'Église? Parce que j'ai l'impression que c'est l'Église là qu'on veut séparer, plus que le fait d'être religieux, de croire ou d'être croyant ou pas, c'est le fait de se mettre en communauté pour croire, enfin, je dirais, ou être à cause de sa croyance, sa communauté. C'est ça qui fait le pendant, il me semble, avec l'État. Hein. C'est pas tellement la religion, c'est la religion organisée.
Chez Spinoza, vous avez tout à fait raison, pour la précision, chez Spinoza, c'est une distinction entre l'Église, entre l'Église et l'État. L'institution.
L'institution.
Voilà.
C'est en
tant qu'institution.
Le micro plus près.
Oui, c'est parce que je connais un peu la question.
Plus près de la bouche, le micro.
Que je parle un peu trop. Voilà. D'un point de vue philosophique ou théorique, au XVIIIe siècle, on a parfaitement séparé la théologie de la philosophie, la science de la foi, etc. C'est pas qui était d'un point de vue théorique. C'est la religion, c'est autre chose. La religion est jugée du point de vue comme une réalité sociale. La religion est une réalité sociale. Helvétius, par exemple, qui a réglé la question en voyant la croyance à l'humanité divisée, absolument athée, mais tout à fait persuadé qu'il faut une religion dans une société. Parce que sinon, il n'y aura pas d'ordre social. Et donc, la religion joue un rôle social. Donc, on peut très bien combattre les pouvoirs sociaux de la religion, dans les temps croyants, et à l'inverse, beaucoup de athées acceptent très bien qu'il y ait une religion, parce que la religion joue un rôle social. Peut-être, par exemple, les déistes, Voltaire dit que la religion ne veut pas. Il faut du feu pour les groupes. Donc comment l'ordre peut-il fonctionner s'il n'y a pas des croyances collectives? Et si s'il n'y a pas des forces sociales mettent en œuvre, dans ce qui sera l'anarchie, le désordre, où sera le bien et le mal, la propriété et l'absence de propriété, etc., etc. Donc il n'y a pas de principe d'ordre s'il n'y a pas une religion. La religion joue un rôle social. Dans le grand déplacement qu'opère précisément la République communiste de Robespierre, c'est de montrer que la croyance peut se détacher de l'organisation sociale de cette croyance. Donc on saluera l'être suprême, c'est-à-dire la foi des individus, en titre de leur propre morale, et on ne laissera pas les prêtres mettre la main sur la société. C'est une séparation radicale et qui a été politiquement et éthiquement perse. Là, dans une certaine mesure, on va imaginer l'invention de la laïcité à laquelle personne n'avait songé. Enfin, ça, c'est très important. Sur le plan philosophique, l'affaire est réglée déjà au XVIIe siècle, les libertés par bonne partie, puisque ça, c'est pas. Sur le plan gouvernement des hommes, de l'organisation de la société, voilà, on est en train de prendre le constat que la religion, c'est d'abord une institution. D'ailleurs, par une sens, plusieurs églises, plusieurs organisations, et puis en plus, les monde qui est obédant, etc. Les Chinois, comment on fait? Les missionnaires sont d'accord. Comment ils font avec quelque chose qui n'est pas une église? C'est le grand commun. Donc, de plus en plus, on traite entre la question de la religion comme une institution sociale. Évidemment, c'est ce qui est en fureur des démarches de l'État, c'est pour ça qu'on peut aussi taper les évêques, mais aussi la part des croyants qui sont invités dans ce qui est leur mode d'existence. C'est-à-dire, une fois, une religion, le système qui expose.
C'est ce qui explique, et d'ailleurs, il n'y a pas eu. Robespierre a insisté pour ne pas faire du clergé.
Bien sûr.
Ça aurait été recréé une institution sociale, ça faisait un exemple plus. Quoi. Alors, il y a eu ce fameux thème sans roi, ni grand, ni prêtre. Hommage à l'éternel, sans grand, ni roi, ni prêtre. En cantique à l'éternel, à l'État suprême. Ça. Bon. De toute façon, je répète que tout ce que nous avons vu ces deux séances, c'est de dire que ce que j'ai dit au début, c'était que les prolégomènes de l'étude de la laïcité qu'on va aborder avant la semaine prochaine, qui sera entendue la semaine prochaine. Donc, bien, il ne reste plus de questions peut-être, non ? Parce que justement, vous avez rendez-vous la semaine prochaine, même mieux, même heureux, etc.
Non. La semaine prochaine, ça a lieu, puisqu'on ne peut pas avoir cette salle toutes les semaines. Hein. Donc, les quatre prochaines séances auront lieu au conseil général. Hein. Donc, on va le faire, on s'arrange pour le confirmer par
La prochaine fois, c'est sûr, mardi prochain, la séance aura lieu dans la salle dans l'auditorium du conseil général.
C'est en face, mais du coup, ça c'est pas rentré. C'est sur le bureau qui s'est là. C'est l'ancienne maison d'agriculture.
C'est une bête.